Materia. Ars materia.
Ars materia. Savoir-faire.
Habileté.
Qualité de celui qui sait.
Qualité de celui qui sait.
Matériau.
Materia.
Art.
Matériau.
Savoir-faire.
Essence des choses.
Principe.
Art. Matière.
Science.
Ars. Habileté. Savoir-faire. Essence des choses.
Ars. Materia.
Un artiste. Un matériau. Un savoir-faire. Ars Materia, c'est l'histoire de cette rencontre.
Pour cette nouvelle émission d'Ars Materia, Ninon Millet-Barbé nous accueille dans son atelier maison d'Étoiles sur Rhône. Ninon s'est formé à différentes disciplines, marqueterie, vitrail, bijouterie, fonderie d'art. Elle, qui se revendique artiste plasticienne, pratique un art qui est à la croisée de ses techniques, influencé par l'art cinétique et l'art psychédélique, avec un ancrage très fort dans l'art ornemental oriental. Durant cette heure, elle va nous faire partager la passion avec laquelle elle s'investit dans son travail et sa création. Écoutons-la.
Bonjour. Eh bien, du coup, moi, c'est vrai que je travaille donc chez moi, dans le cœur de ma maison. Donc, du coup, c'est un atelier vivant. Je suis constamment dans mon travail. J'ai pas d'heure pour commencer ma création. Je vis avec la pièce et l'évolution de la pièce qui est en cours. Bah, il m'arrive parfois de finir un peu tard.
D'accord. Donc, il y a des chats sur le canapé ?
Il y a un chat sur le canapé, oui. Je vis avec mon chat qui est ma meilleure amie, ma fille, tout. Je suis très branchée animale quand même.
Quels sont les avantages de travailler chez soi et les éventuels inconvénients ?
Alors, l'avantage, eh ben, c'est que je pense que ma maison est en vie, selon aussi l'émotion ou la thématique de la pièce que je travaille. Donc ça, c'est pour moi très important, c'est chargé en énergie. Et le désavantage, eh ben, c'est que parfois, je travaille même le dimanche et que mes amis me disent « faudrait sortir un petit peu !» Voilà.
Du coup, la période du confinement a été
propice à la création ? Je l'ai bien vécu personnellement. J'avais senti qu'on allait se faire confiner, donc j'avais bien acheté de la matière pour pouvoir travailler, j'avais pris les devants, parce que je savais que si je ne pouvais pas créer, ben, ça serait vraiment compliqué pour moi, parce que c'est vital en fait. Donc j'ai même fait des pièces sur le thème justement, la résilience, je pense qu'ils sont sortis dus à cette période difficile.
Et est-ce que vous ressentiez à l'époque ?
Oui.
Ouais. Ouais, c'est une période très particulière, oui. Hein, de notre existence.
Oui.
Vous y avez donné des formes nouvelles par rapport à des choses que vous faisiez auparavant ?
Pas forcément. Je pense que je l'ai relié aussi à d'autres choses qui se sont passées pour moi dans ma vie, émotionnellement, des traumatismes ou autres. Mais c'est vrai que comme par hasard, c'est sorti à ce moment-là, quoi. La résilience, et ça c'était le thème, et je l'appelais rêve. Après, il y a des couleurs très féminines, il y a du violet, il y a du blanc, et on peut dire que le blanc c'est le deuil, etc. Donc avec le confinement, vous voyez, enfin, bref, moi je travaille beaucoup aussi sur la symbolique de la couleur. Il y a le symbole, mais il y a aussi la couleur.
Mmh.
Voilà.
Oui, graphisme et couleurs sont intimement mêlés. Et les symboliques évoluent aussi selon les endroits du monde et les civilisations.
C'est
parce
ça.
Que le blanc associé au deuil, c'est dans d'autres pays que la France.
Oui, il y en a pas mal. Hein. Ouais. Après, le violet, c'est pareil. Hein. Je veux dire, le violet, c'est le mouvement féministe aussi. Mm-hmm. Hein. Et le micro de Radio Belvé.
Vous saurez tout sur la couleur du micro. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici ?
Alors, moi, ici, sur Étoile, donc ça fait déjà 10 ans que je suis ici. Après, ça va faire donc 4 ans que je fais que ça, travailler le verre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Avant, j'ai toujours travaillé le verre depuis que je suis très jeune. J'ai commencé à 15 ans chez les frères Thomas. Et j'ai fait pas mal d'expositions, pas mal de créations. Et là, vraiment, consacrer ma passion, mon art, ça fait 4 ans. Voilà. Après, j'ai un parcours artistique assez varié. J'ai été salariée dans des entreprises d'art, en fonderie d'art. Aujourd'hui, je suis toujours aussi... je fais toujours de la prestation de service aussi pour des entreprises comme ça. Parce que c'est un savoir-faire très rare. Mmh. On a du mal à trouver des gens formés. Mmh. Donc, je continue aussi par passion, parce que j'ai plusieurs passions artistiques.
On va écouter un morceau de musique que vous avez choisi. Amon Tobin, Clairfort Bleu.
Oui.
Il est question de couleur aussi.
Oui.
Thank you.
vous avez parlé d'un passage en fonderie d'art et votre travail pourrait s'apparenter à du vitrail, mais vous refusez cette appellation au profit d'artiste plasticienne. Pourriez-vous nous donner quelques dates ou indications sur le parcours qui vous a amené à être là où vous en êtes dans votre travail aujourd'hui?
Alors, donc moi, j'ai commencé donc par faire du vitrail traditionnel donc chez les frères Thomas à Valence. Ensuite, j'ai fait donc un CAP bijouterie art du joyau. Ensuite, j'ai fait un CAP marqueterie. Après, j'ai fait un CAP monture en bronze. J'ai fait de la restauration du patrimoine historique en Sicile à Palerme, sur les bronzes, dans des sacristies. J'ai fait ensuite beaucoup de fonderies d'art à Cré. Donc j'ai travaillé pour énormément de sculpteurs, si vous voulez, et femmes et hommes. J'ai retouché énormément de cire, parce que c'était des techniques de cire perdue, qu'on retrouve aussi dans la bijouterie, mais en modèle plus gros. Et si vous voulez, aujourd'hui, je pense que mon travail, en fait, c'est la convergence de toutes ces techniques mélangées. Il y a la brillance du bijou, il y a du modelage. Je fais du modelage de plomb, comme on pourrait faire modeler de l'argile. Et puis, il y a toute cette mise en couleur qui est pour moi, finalement, comme une patine relève un bronze. Et ben là, pour moi, quand je mets la mise en couleur sur mes œuvres, eh ben, je redécouvre le motif que j'ai créé. Et je pense qu'à la base aussi, quand j'ai fait pas mal de marqueterie, si vous voulez, on nous a appris énormément à dessiner. Et on appelait ça donc des épures. Et j'ai la même façon de travailler. Donc je fabrique un dessin d'abord à l'échelle, avant de réaliser une œuvre, pour que je puisse voir le rendu final. Ensuite, je vais le travailler sur mon verre et après je viendrai travailler mon plomb par-dessus, faire toutes mes petites soudures pour qu'elles soient bien bullaires, bien brillantes. Ça, j'y tiens énormément. Je pense qu'il y a une finesse dans le plomb et la soudure qu'on peut peut-être pas retrouver partout et qui donne un éclat à la pièce. Voilà.
Entendu.
En gros. Oui.
Non, mais c'est pas en gros, c'est en détail, hein, puisque chacune de vos pièces foisonne justement de brillance et de.
Voilà. Donc on voit bien que il y aura, bien sûr, je travaille toujours le traditionnel, le vitrail traditionnel sur commande ou voilà. Mais si vous voulez, pour moi, il y a une répétition qui fait qu'à un moment donné, on s'éteint dans la technique traditionnelle. Donc je sais que voilà, aujourd'hui, je suis avec mon design, mes techniques. Je casse un peu les codes, oui, du traditionnel, mais je m'éclate. Et en plus, j'ai une liberté dans le mouvement, dans l'expression. Je peux faire des spirales, des formes qu'on ne peut pas faire dans le traditionnel. Et ça, c'est vraiment formidable.
Cette liberté vous est donnée par la richesse de votre formation. Vous avez un CV assez impressionnant en termes de formation. Ça vous a emmené dans la région, je crois. Vous avez été formé par ici,
oui,
mais à l'international aussi.
Je suis née donc, dans la région, sur Romans. J'ai été formée donc, sur Valence, que ce soit bijouterie. Et puis, ce qui m'a donné le goût du verre chez les frères Thomas quand j'étais jeune. Ensuite, je suis partie à Uzès, au lycée des métiers d'art, où là, j'ai fait quand même deux formations qui sont dans un lycée formidable, marqueterie et monture en bronze, qui m'ont encore plus donné envie de... Ça m'a guidée, quoi. De toute façon, j'ai toujours su, si vous voulez, j'étais pas forcément très douée à l'école, j'avais beaucoup de dyslexie. Enfin, c'était compliqué pour moi. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui était derrière moi, qui a tout de suite senti que j'avais une facilité... Enfin, que l'art, c'était quelque chose de très important pour moi. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis là. Et après, je pense que tout au long de mon parcours, je suis tombée sur des gens formidables et qui sont encore là aujourd'hui. Je pense surtout à une certaine personne qui m'a donné le goût et l'envie de réussir et la niaque. Et je le remercie parce que j'en suis là et je me bats. Voilà, c'était... Et je vais y arriver, quoi. Et je suis heureuse. En fait, je crois que, tout simplement, je suis bien. Je suis libre. Je suis... Alors oui, je suis peut-être un peu rebelle parce que je casse les codes ou le traditionnel, mais c'est pas rebelle dans le sens de... de la violence, c'est rebelle dans le sens d'être libre. Voilà, je me bats avec des choses qui n'ont été pas faciles non plus dans ma vie personnellement, et c'est ma façon à moi d'exister. Bien et d'exister, ouais. Voilà, et je fais ça parce que pour moi avant tout, voilà.
Et pour les autres aussi, oui. Ceux qui ont la chance de contempler votre travail.
Merci.
Nous avons écouté Bachar Mar Khalife, chanteur, compositeur, multi-instrumentiste franco-libanais, dans Chafé Chafé.
Alors, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc, c'est le fils d'un très grand musicien, un joueur de oud. J'aime énormément la musique orientale et j'avais envie de faire une petite Ben, une petite pensée à tout ce qui s'était passé aussi au Liban ces derniers temps. Et puis la galère dans laquelle ils sont toujours. Voilà. Donc, et pour moi, c'est un grand poète à sa manière. Mais voilà. Donc, petite parenthèse à Bachar.
Ça permet aussi d'évoquer un aspect de votre travail, et vous allez nous en parler un peu plus longuement, mais l'aspect ornemental et qui a des correspondances avec l'Orient, justement. Mm-hmm. Un travail qu'on a sous les yeux là, comporte des arabesques qu'on trouve assez peu dans la technique traditionnelle du vitrail, avec laquelle vous semblez avoir rompu, et en même temps vous en prolongez d'une façon peut-être plus contemporaine la tradition. Vous pourriez nous parler un peu de la manière dont vous êtes arrivé à cette technique, cette manière de travailler?
Voilà, j'aime l'Orient, j'ai voyagé surtout au Maroc, j'aime la chaleur des gens, j'aime les couleurs qu'on retrouve, j'aime leur musique. La musique orientale qui est de la poésie, de l'amour, j'aime tout. Voilà, donc les arabesques, la mosaïque qu'on peut voir là-bas énormément, même dans les tombeaux. Et je pense que ça vient de là. Ensuite, j'aime énormément l'Andalousie, où bah, y a eu aussi une histoire avec le monde arabe. Et on retrouve pareil à Cordoue aussi, et dans des quartiers où juifs par exemple, où vraiment ben il y a ces peintures dans les monuments, sur les façades, les faïences, et c'est ça qui m'inspire énormément. Donc après, comment moi je travaille mes œuvres, je vais partir donc je vais faire un dessin. De ce dessin-là, parfois, je pars soit sur un thème que j'ai déjà dans ma tête. Je vais partir du centre de la pièce en allant vers l'extérieur. Et le contact avec la matière, ce modelage de plomb, cet alliage de soudure qui fait qu'on retrouve pas mal aussi la brillance des métaux, enfin... On peut retrouver dans l'Orient, dans les luminaires. Je ne travaille pas de figuratif. J'en ai déjà fait, si vous voulez, du figuratif. Aujourd'hui, j'aime le symbole. Mais j'aime le symbole où chacun peut... Chacun, de toute façon, une œuvre d'art... Moi, je vais partir sur une idée, une base, un thème. Mais ce que moi, je vais ressentir et vouloir faire passer ne sera pas forcément l'interprétation de celui qui va regarder l'œuvre. Mais si je peux essayer de le faire voyager sur des thèmes ou sur des couleurs, ou par exemple, la dernière fois, j'ai vu une dame qui m'a dit « Oh là là, ça me rappelle la Tunisie, cette pièce. Oh là là !» Et bien ça, pour moi, c'est vraiment trop, trop chouette. C'est un réel partage. Et ramener justement, bah oui, pourquoi pas, ce côté oriental, pourquoi pas, dans le monde du verre. Ça a sa place.
D'ailleurs, je m'interrogeais en vous entendant, est-ce que bah justement dans vos voyages en Orient, vous avez vu des vitraux ?
Eh ben non. J'ai vu que beaucoup de mosaïques de pierre. Mmh. Énormément aussi, vous savez, le travail du bois, les moucharabiers. Ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique. Et ensuite, il y a autre chose où ils sont quand même franchement plus que doués. C'est tout ce qui est gravure sur métal, sur les plateaux de cuivre, sur... c'est dingue. Des choses qu'aujourd'hui, franchement, on est presque incapable de refaire. Faut dire ce qui est. Hein.
Les machines, nous secondes.
Bah, ou là où justement, j'ai moi aussi, bon, le numérique c'est bien, mais si vous voulez, moi aujourd'hui dans mon travail, rien, il n'y a aucune intervention numérique. Donc après, je veux dire, je pars d'une épure, d'un dessin, tout est fait entièrement à la main du début à la fin, quoi.
Vos œuvres ont des tailles assez impressionnantes, hein, parfois. On arrive presque à 1 mètre par 1 mètre.
Oui, bah 1 mètre 5 par 1 mètre 5. En fait, c'est sûr que si vous voulez, plus j'ai de place, plus je peux m'exprimer, quoi. Donc j'ai tendance à charger beaucoup mes pièces. Ça, on me le dit souvent. Waouh, c'est chargé. Donc, j'essaye de faire des efforts parfois de pas trop charger, mais je vous avoue que moi, j'ai besoin de charger. Donc, pour charger et puis pour avoir des motifs, des courbes, des belles spirales, on est obligé d'avoir de la place. Donc, bah oui, je prends de la place. Voilà. Et je m'impose avec des grosses pièces. Et c'est ce que je préfère, faire des grosses pièces, oui.
Vous avez parlé du dessin, donc une épure tracée à la main sur un papier que vous affichez au mur lorsque vous réalisez l'œuvre. À quel moment interviennent les choix colorés?
Alors, justement, alors ça c'est dingue. Bon, alors oui, bien sûr, j'ai des couleurs de préférence, ça c'est sûr. Mais la couleur, la mise en couleur vient vraiment à la fin. C'est-à-dire que je vais avoir du mal déjà à faire deux pièces, par exemple, en même temps. Quand je commence une pièce, je ne vais pas passer d'une pièce à l'autre. Je vais commencer une pièce, aller jusqu'au bout et attaquer ensuite une autre. Après, moi, j'ai vraiment des phases. Donc, je crée le dessin, je fais mon modelage de plomb, je fais mes soudures, mon nettoyage. Je commence après par le cœur de ma pièce, le centre. Et la mise en couleur, eh ben, elle se fait progressivement, si vous voulez. C'est-à-dire la composition des teintes... ça vient au fur et à mesure. J'ai pas, je ne me dis pas, oh bah tiens, je vais faire une pièce rouge. Donc, non. C'est, je pars sur un dessin et après, ça évolue selon l'évolution de la pièce, en fait.
Selon votre inspiration.
Et aussi l'inspiration, oui.
Sans vouloir entrer dans des secrets de fabrication que vous ne souhaitez peut-être pas divulguer, mais quel type de couleur quelles encres utilisez-vous?
Alors là, j'utilise que des peintures à base de solvant. Donc, bah, ce n'est pas des peintures qui sont forcément bonnes pour la santé, hein, entre guillemets. Mais c'est comme des lacs, en fait. Des sortes de... C'est pas de la résine, mais c'est comme de la carrosserie.
D'accord.
Ce qui permet aussi d'avoir, si vous voulez, une brillance qui, pour moi, est hyper importante dans le verre. Parce qu'on a des peintures qu'on peut cuire, par exemple, comme la grisaille, etc. Mmh. Où là, on va avoir des opacités qui, moi, aujourd'hui... par rapport à ce que je fais, c'est pas ce que je veux. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin que ça brille, j'ai besoin qu'on se voie dedans. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et d'avoir aussi des couleurs très prononcées, quoi. Mmh. Donc, travailler des fluos, travailler des pigmentations assez intenses.
Cette recherche du reflet et de la brillance, ça explique le fait que vous montrez vos œuvres directement sur le mur sans laisser passer la lumière, en fait.
Alors,
ce refus de jouer avec la lumière.
Oui, c'est un refus, oui et non, dans le sens où, voilà, oui, j'ai fait des pièces, des tableaux où, donc, oui, il y a des fonds, parce que seule la matière, finalement, le verre, est mis, enfin, pour moi, hein, n'a pas besoin de transparence. Mmh. Parce qu'il y a des pièces où déjà le motif suffit à lui-même, plus cette brillance. On se voit de toute façon. C'est vrai que c'est très compliqué en photo à se rendre compte, mais quand on regarde une de mes pièces, on voit cette brillance. Je pense que si j'avais de la transparence, j'ai certaines teintes et des dégradés qui seraient estompés. Voilà. Donc après, je travaille quand même la transparence sur des luminaires, des paravents, des talons lumineux. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, on a le droit d'avoir une œuvre d'art, de ne pas peindre sur des toiles. On a le droit de peindre sur du verre, de créer du verre et d'avoir une œuvre en verre, tout simplement.
La nuit, parfois, ravive une plante singulière dont la lueur décompose les chambres meublées en massif d'ombre. Sa feuille d'or tient impassible au creux d'une colonnette d'albâtre par un pédoncule très noir. Les papillons miteux l'assaillent de préférence à la lune trop haute qui vaporise les bois. mais brûlés aussitôt ou vannés dans la bagarre, tous frémissent au bord d'une frénésie voisine de la stupeur. Cependant, la bougie, par le vacillement des clartés sur le livre au brusque dégagement des fumées originales, encourage le lecteur. Puis, s'incline sur son assiette et se noie dans son aliment.
Nous venons d'entendre un poème de Francis Ponge, La bougie, où il est question de lumière, de matériaux, de cire, de mèche, d'attraction exercée par la flamme de la chandelle et de lecture. Ça m'amène à vous interroger sur vos sources d'inspiration. Alors, sur votre site, vous revendiquez deux influences majeures. Bon, il a été beaucoup question de l'Orient et on voit par votre histoire comment il prend forme dans votre travail. Mais vous parlez aussi beaucoup de l'art optique des années 60, le op art.
Oui.
Donc avec des gens comme Vasarely qui travaillaient avec des illusions et des jeux d'optique. Et aussi de psychédélique art. Qui lui fait peut-être davantage appel à la sensation, à l'émotion et moins à la signification.
Oui, et peut-être on peut dire Escher, Moritz Escher, pour le psychédélique.
C'est vrai.
Et, aussi par rapport, je pense, à la construction de mes dessins. Escher qui disait lui donc pas mathématicien, mais cette obsession de l'infini, du motif répété et de tout faire à la main, d'où on rebondit sur le slow design où c'est une conception lente et voilà, pas d'intervention numérique, prendre le temps de composer les choses et de les réaliser.
Ces influences, ça a été un choix délibéré ou vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure que vous avez évolué dans la pratique de votre art que c'était des références que vous aviez en vous et vers lesquelles vous alliez naturellement, ou bien ça a été un choix délibéré en voyant des œuvres de tel ou tel artiste de dire je vais creuser dans cette direction?
Alors naturellement, parce que donc j'ai vu une exposition de Vasarely quand j'étais jeune. Où là, je me suis dit, waouh, les couleurs, les volumes, incroyable. Et puis cet homme qui disait justement, moi je veux qu'on reprenne, je veux qu'il y ait une suite à mon art. Je veux encourager les gens à travailler. C'est marrant, hein. Et ça, entre guillemets, un peu comme un père, pas artistique, mais je trouve que c'est un parrainage, quoi. Je veux dire, il dit aux gens, allez-y, quoi. Inspirez-vous. Et travailler, développer de ce que je peux faire. Ça, j'ai trouvé ça un partage dans tous les reportages que j'ai vus, incroyable. Et donc là, je pense que ça, tout ce qui est optique, ça vient de là. Et je pense que par rapport à Escher et le psychédélique, il y a aussi quelque chose, j'en avais parlé tout à l'heure, j'ai eu pas mal de difficultés à l'école au niveau de la dyslexie, qui était, et puis bien d'autres choses. Des problèmes pour parler, entre guillemets, où j'ai fait 10 ans d'orthophonie. Et en allant dans mes études de marqueterie, on nous apprend dans une technique Boulle, André Charles Boulle, à travailler à l'envers. Et je me suis rendu compte que, si vous voulez, ça m'avait... mon cerveau a dû réfléchir à l'envers pour créer... c'est compliqué, il faut que les gens connaissent plus la marqueterie en détail. Mais du coup, ça m'a rééduqué ma façon de fonctionner dans ma tête. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer.
Oui, c'était une sorte de thérapie, en quelque sorte.
De thérapie. Et du coup, cette construction-là, j'en ai besoin. Si vous voulez, je vais calculer, me dire, ah, mais tiens, si j'inverse ça. Et du coup, je sens que ma tête travaille dans... C'est une thérapie aussi. Voilà, en plus des thèmes, en plus de tout. C'est marrant, mais il y a un côté...
Vital et nécessaire.
Ouais, ouais, ouais. Et si j'avais jamais fait cette marqueterie-là, ou un jour d'ailleurs j'ai refait une marqueterie d'Escher, car le professeur nous avait dit, on va prendre le thème Escher, on avait fait un loup, le noir et le blanc, J'aurais jamais pensé, si vous voulez, que cette dyslexie, après 10 ans d'orthophonie où je galère encore, je fais marqueterie, j'ai une rééducation qui s'est faite toute seule par le biais de l'art, quoi. C'est incroyable. Enfin, moi, j'en suis pas revenue, quoi.
C'est une belle leçon.
Ouais.
Une belle histoire.
Voilà.
Alors, donc vous disiez une œuvre à la fois, il n'est pas question de se disperser, donc chaque œuvre a une forte centralité, un souci de la symétrie aussi qui est très, très marquant chez vous.
Ça c'est intéressant ça, la symétrie.
Et du coup, concrètement, moi j'aime bien les petites anecdotes, les petits détails. Mm-hmm. Combien de temps vous prend, par exemple, ce tableau qu'on a sous les yeux, là, qui est en cours de travail?
Oui. Alors ce tableau...
Plusieurs jours, on peut imaginer.
Oula, bah là, ce tableau, il y a plus d'un mois de travail quand même, hein, sur celui-là. Hein. Là, du début du dessin jusqu'à la fin, là, je dirais un mois, 4 jours par semaine, parce qu'en ce moment, donc, comme je l'ai dit, je travaille 2 jours pour une petite fonderie, là. Donc, voilà, mais je veux dire, du mercredi au dimanche, je ne m'arrête pas. En fait, si vous voulez, en plus, c'est très long, mon processus, j'ai des teintes sèches, puis je suis à cheval sur la finition, donc je prends beaucoup de temps.
Je confirme.
Et puis, il faut aussi... je ne peux pas peindre de morceaux à côté, donc il faut aussi... réfléchir à la technique pour pas que ma peinture, que les peintures se noient entre elles. Enfin bon, ça c'est. Donc c'est long. Voilà. Je crois que j'ai une pièce en haut où j'ai mis plus de 150 heures. Mmh. Mais bon, j'ai compté, il y a plus de 254, un truc comme ça, soudure. Voilà, enfin c'est.
Tout impeccable. Hein.
Ouais. Mmh. Mais quand j'ai fini l'œuvre. Eh ben, je peux passer à autre chose, comme je disais, hein, c'est des thèmes. Donc, mais là, on est sur une pièce sur le thème de l'amour. Donc,
on en a besoin.
Donc, oui, et puis j'ai encore envie de rester dans ce thème, entre guillemets. Il fait du bien, ça change.
C'est vrai, c'est vrai. C'est un travail très, très fin et vraiment avec des détails poussés, un soin du détail poussé à l'extrême. Il y a une sorte de méditation, j'imagine, qui accompagne la réalisation de ces œuvres.
Oui, parfois je pleure, je vous le confie. Hein. Parfois, je fais des pièces qui me... De toute façon, ça fonctionne avec l'émotion, mes tripes, je pense. Et parfois, quand je peins, j'ai les larmes qui coulent. Pourquoi, j'en sais rien, mais... Enfin, de toute façon, c'est une thérapie totale. Hein.
Solo mi fu il pranzo da me stessa, non vado sempre a messa, ma prego assai il Signor, vivo solo a soletta, là in una bianca cameretta, guardo sui tetti, in
Puccini, Barbara Hendricks. Oui, j'ai choisi cette interprétation-là. Déjà, Puccini, l'Italie, hein, ils sont trop forts. Et deuxièmement, Barbara, oui, parce que j'avais vu un opéra quand j'étais jeune. Et j'étais au deuxième rang et mes yeux se sont noyés dans ses yeux. Et là, j'ai fait waouh, quelle femme magnifique. Et puis, une femme très investie dans l'humanitaire. Voilà, petite parenthèse.
Donc on va terminer notre entretien avec votre actualité. Je crois qu'il y a une exposition qui est organisée en tout début de l'année 2022.
Voilà, janvier, du 20 au 31 janvier, espace Jeanne de Flandrésie à Valence, square Charles Aznavour, c'est juste en face du centre du patrimoine arménien. Et donc de 10h à 19h, moi, je vous invite à venir, que je puisse partager avec vous un maximum de gens. Et puis, la culture, quoi. Mmh. Retrouver un petit peu d'art après ces 2 ans compliqués.
Ça fait du bien. Voilà. Je passerai.
De voyager.
Alors, peut-être avez-vous d'autres expositions prévues à la suite
ou... Là, j'attends parce que normalement, donc, on avait un collectif sur Valence... au niveau des Journées européennes des métiers d'art, les GEMA. Donc là, on n'aura sûrement pas cette année. Mais du coup, je vais sûrement faire partie du collectif de Roman. Donc j'espère qu'on se verra sur Roman. Et ensuite, il y aura peut-être une autre exposition à Mirmande. J'attends confirmation. Et puis moi, les galeries. Mmh. Donc on attend là. Les candidatures sont posées. On en saura plus fin janvier.
Entendu.
Voilà.
Oui, parce que vous avez fait le choix de renoncer à tout ce qui est marché d'art et d'artisanat pour aller plutôt vers un travail plus artistique et dans des lieux appropriés.
C'est ça. J'en ai fait beaucoup. C'est vrai qu'après, mes pièces sont grosses. Le parcours fait que Il y a du savoir-faire, sans prétention, hein, et du travail. Donc oui, je vise les galeries, je vise des expos vraiment spécifiques à ce genre de... C'est entre l'artisanat, mais qui tire plus... c'est l'artiste, quoi.
Oui.
Et de faire le choix, surtout, de faire des pièces qui sont uniques. Mmh.
Et rempli d'émotions.
Ouais,
donc c'est ce qui qualifie un artiste, ouais. Non?
Merci.
Et bon, concrètement aussi, pour monter une exposition, ça ne doit pas être de tout repos, parce que les formats sont tels que chaque œuvre doit être extrêmement délicate à manipuler, à accrocher.
Ouais. Bah là, j'ai 3 jours de montage d'exposition, 3 jours de démontage avec l'aide de mes amis, heureusement. Mais là, ça va être vraiment... je suis très, 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 très heureuse de pouvoir faire cette exposition à Valence, où on a quand même un espace qui est magnifique, qui a 137 mètres carrés. Donc là, on va pouvoir avoir... je vais pouvoir montrer, si vous voulez, aux gens 4 ans de travail, où on va pouvoir suivre l'évolution de mon travail sur tous les sens. Et ça va être... Je vais essayer de faire quelque chose de chouette et... Et je suis trop, trop contente. Voilà.
On viendra.
Ah oui.
On viendra. Et on vous encourage, toutes et tous qui avaient l'occasion de nous écouter, à vous y rendre.
Oui.
Merci beaucoup, Ninon.
Merci beaucoup à vous. C'était vraiment trop chouette de partager.
Un bon moment à partager.
Oui.
Merci.
Merci.
Your precious blood. More to me than any love, than any love could ever be. For when I wanted you, oh now, I was so lonely and so blue. That's what love.
Vous pouvez découvrir le travail de Ninon sur son site nmbateliersd'art.com, tout attaché. Ars Materia, une émission de Jean-Luc Boiré, diffusée sur Radio BLV 93.6, les deux premiers mardis à 19h et les deux premiers jeudis du mois à 13h. Le mois prochain, nous poursuivrons nos rencontres avec ces artistes qui entretiennent une relation privilégiée avec un matériau, une technique, un savoir-faire.